Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, Jésus demande à ses apôtres : Si quelqu'un veut être le premier, et nous pouvons nous demander comment cette question résonne-t-elle en nous. Avons-nous quelque part ce désir, nous aussi, d'être le premier ou la première, le désir d'être plus aimé, d'avoir plus de reconnaissance, plus de pouvoir, plus de richesse. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, reconnaissons que nous avons tous ce type de pensée qui nous passe par la tête, même si ce ne sont souvent que des tentations que nous pouvons rejeter. Mais comment se fait-il que nous ayons ce désir d'être le premier ou la première, ce désir de vouloir passer avant les autres ? Et qu'est-ce que cela signifie profondément ? C'est une question importante, car cela a de grandes conséquences sur notre comportement vis-à-vis des autres et pour notre vie spirituelle. Alors pour essayer de répondre à cette question, je prendrai 3 parties. La première, c'est à propos de la comparaison, qui est un poison pour l'estime de soi ou des autres. La deuxième partie, ce sera sur notre besoin d'être aimé. La troisième partie, eh bien, c'est de savoir que nous sommes infiniment aimés de Dieu et que c'est là la solution. Première partie, la comparaison, poison pour l'estime de soi ou des autres. J'ai trouvé sur Internet, sur un site voilà, de formation humaine, un texte qui disait que comparer les choses les unes avec les autres est un réflexe humain tout à fait normal et utile, puisqu'il nous donne des points de repère essentiels pour faire des choix et pour vivre. Mais si la comparaison est utile pour connaître la valeur des différents objets, eh bien elle ne peut pas être utilisée avec les humains sans laisser des marques réelles sur l'estime de soi, sur l'estime des autres. Et cela risque de laisser des marques qui resteront douloureuses longtemps. La comparaison, celle que nous utilisons pour parler aux autres, à nos enfants, à nos adolescents, autant que celle que nous utilisons pour essayer de mesurer notre valeur personnelle, est un poison pour l'estime de soi. En effet, le désir d'être le premier est toujours le fruit de la tentation de se comparer aux autres. C'est une tentation qui vient toujours du diable, car il nous conduit presque toujours à douter de notre valeur, ou à douter de la valeur des autres, à douter de notre capacité d'être aimé pour ce que nous sommes. En effet, que se passe-t-il quand nous nous comparons ? Voilà, si je me trouve moins bien que les autres, Celui qui a été comparé à la baisse, eh bien, se sent inférieur, se sent surpassé sur tel ou tel point, et il va penser qu'il n'a pas autant de valeur que les autres. Et son drame intérieur est de penser qu'il vaut moins que les autres. Je suis nul, ou bien c'est injuste. Et ce type de pensée, dans lesquelles nous nous dévalorisons, entraîne de la tristesse, un manque d'estime de soi, et cela peut susciter de la jalousie. Cette jalousie qui peut conduire à la violence et même au meurtre. Et c'est bien ce que disait Saint Jacques dans la deuxième lecture de ce jour. La jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Dans la Bible, le premier meurtre est une conséquence immédiate de la jalousie. Caïn tue son propre frère Abel. À l'inverse, lorsque nous nous comparons et que nous nous sentons supérieurs, eh bien, nous avons la tentation de nous croire meilleurs que les autres, supérieurs aux autres. Et notre drame intérieur alors est de croire que nous n'avons de la valeur que tant et aussi longtemps que nous ne serons pas dépassés par les autres, que nous ne serons pas surpassés par eux et que nous resterons le meilleur. Et cela va entraîner des pensées d'orgueil, de mépris de l'autre et le désir de vouloir continuer à dominer les autres, voire à les écraser, parce qu'on les voit comme des concurrents dangereux, parfois jusqu'à vouloir les éliminer. Nous voyons que dans les deux cas, bien que la souffrance soit différente, selon que nous nous sentions supérieurs ou inférieurs en nous comparant aux autres, eh bien le mal a les mêmes racines et la même cause. C'est l'incapacité à accueillir notre valeur personnelle, intrinsèque. Nous doutons que nous sommes aimables et que nous avons de la valeur telle que nous sommes. Alors, en fait, cela rejoint la deuxième partie, nous avons besoin d'être aimés. Quand Jésus s'adresse à ses apôtres, qui ont discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand, le Seigneur ne se scandalise pas de leur désir d'être le plus grand. Il comprend ce désir et il le prend très au sérieux. Il leur montre simplement qu'ils se trompent de chemin pour y parvenir. Mais tout d'abord, eh bien, essayons de comprendre en quoi est-il compréhensible, voire légitime, de désirer être le premier. La quête de gloire, de prestige, d'autorité, de richesse n'apparaît-elle pas avant tout liée à ce désir de toute puissance qui fait tant de dégâts dans notre humanité, à notre fraternité? La croix de Jésus est même le révélateur par excellence de cet aveuglement causé par l'attachement au pouvoir, à ce désir d'être le premier. Mais derrière ce désir tragique d'être le premier, n'y a-t-il pas le désir d'être simplement reconnu, c'est-à-dire simplement d'être aimé? Et c'est légitime de vouloir être aimé. Dieu nous a créés pour que nous soyons aimés, parce qu'il nous aime, qu'il veut nous combler de son amour. Et il attend aussi notre amour en retour. Alors face à ce besoin d'être aimé qui nous pousse à vouloir écraser les autres parfois pour être reconnus, pour être aimés, nous pouvons nous demander, l'homme est-il finalement avant tout pécheur ou simplement malheureux? Qu'est-ce qui relève de notre liberté pervertie ou bien du désespoir de ne pas se croire aimé? Vouloir atteindre la première place par nos propres forces, eh bien, c'est vouloir se donner le moyen d'être reconnu envers et contre tout. C'est vouloir affirmer que j'existe comme une personne spécifique. Les disciples cherchaient-ils le pouvoir ou bien cherchaient-ils, eh bien, à être le disciple préféré de Jésus? En soi, le désir d'être aimé et reconnu est légitime, mais souvent, nous prenons de très mauvais moyens pour y arriver. Et si une personne cherche à s'imposer aux autres pour avoir cette reconnaissance, eh bien elle va se rendre insupportable par ses exigences, jusqu'à rendre les autres malheureux, sans atteindre pour autant ce qu'elles cherchent. Car l'amour ne peut pas s'imposer par la force, et cette personne échouera toujours dans son projet, car la gloire ainsi conquise par la force ne pourra jamais la satisfaire. Alors la solution, eh bien, c'est ma troisième partie, eh bien, c'est de savoir que nous sommes infiniment aimés de Dieu, et trouver là notre paix, notre espérance, notre joie. Jésus, le Fils unique et bien-aimé du Père, le premier-né de toute créature, lui qui est plein de grâce et de vérité, eh bien se sait infiniment aimé. Il n'a rien à revendiquer puisque tout lui est donné par son Père dans la Trinité et dans son humanité. Toute la divinité du Père lui a été donnée. Jésus sait qu'il n'a rien à envier à son Père et il connaît le bonheur infini d'exister dans l'amour du Père, sous son regard. Il est ainsi libre de donner sa vie par amour pour révéler aux hommes qu'ils sont eux aussi infiniment aimés du Père. Et l'humilité de Jésus, finalement, manifeste cet amour absolu, cet amour qui n'a rien à conquérir, à vouloir. Cette humilité de se recevoir d'un autre qui l'identifie au pauvre, au petit, à l'enfant. Et pour faire comprendre cela, Jésus place un enfant au milieu de ses disciples. Ce geste n'est pas simplement une marque d'affection, mais une manière de faire un avec cet enfant. Le Christ s'identifie à cet enfant qui devient comme le porteur de son nom. Jésus place l'enfant au centre comme le signe de sa présence au milieu des 12. Et le Seigneur ne fait pas semblant, il se reconnaît lui-même en cet enfant. Et de même que Jésus tient sa dignité, non pas de lui-même, mais du Père qu'il a envoyé, l'enfant tient sa dignité de ce que Jésus s'identifie à lui. Accueillir un enfant au nom de Jésus renvoie ici à la nécessité d'accueillir les plus petits comme on accueillerait Jésus lui-même. Et par cet accueil gratuit, les disciples reçoivent non seulement Jésus, mais aussi tous ceux qui leur sont envoyés, et à travers eux, le Père même qui a envoyé le Seigneur. À travers l'enfant, Jésus renvoie ses disciples et chacun de nous au mystère de Dieu lui-même. Et la grâce de la foi n'est pas autre chose que la certitude d'être ainsi aimé d'une manière unique, comme un enfant l'est normalement de ses parents. Oui, chacun est prédestiné à l'amour dans le Fils, l'unique prédestiné du Père. Chacun est premier dans le cœur de Dieu, par la grâce du premier-né de toutes les créatures. Oui, chacun est une merveille aux yeux de Dieu. Et cet amour que Dieu a pour chacun de nous, cet amour ne se vit pas sur des podiums, comme dans le festival de Cannes, mais cet amour, nous avons à le vivre dans le secret du cœur, à le recevoir dans la foi. Il y a une similitude entre humilité et vie cachée. L'humilité, selon Thérèse d'Avila, procède de la certitude de se savoir gratuitement aimé de Dieu. Et ce savoir unique dans l'amour de Dieu est le mystère de chacun. C'est un mystère incommunicable, sinon dans le service du plus pauvre, du plus humble, lui aussi reconnu comme étant premier et unique. Et la fraternité chrétienne est ainsi fondée sur l'accueil du plus petit dans la communauté, mais comme présence du Christ. En accordant ainsi de la reconnaissance à celui qui n'a aucun moyen d'occuper la première place, nous entrons à la suite de Jésus dans le mystère du Père, dans le mystère de leur relation d'amour dans la Trinité. Être unique, se savoir infiniment aimé de Dieu, c'est aimer à notre tour tous ceux que le Père nous donne pour frères et sœurs. Alors nous pouvons comprendre le bonheur inouï d'être nous-mêmes, comme fils et filles de Dieu, comme des pauvres aimés de Dieu en son Fils unique. La joie véritable est de recevoir filialement notre vie dans le Fils unique, de savoir que nous sommes tout pour Dieu. Et Jésus l'a manifesté en donnant sa vie pour chacun de nous. Alors si jamais nous tombons malgré tout dans le piège de la comparaison, eh bien, ayons le réflexe de tout de suite rejeter ces pensées, de tout de suite refuser de nous dévaloriser ou de nous croire supérieurs aux autres. Mais rendons grâce à Dieu pour son amour pour nous, rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits que nous avons reçus dans cette vie. Et rendons grâce à Dieu pour ceux avec qui nous nous comparons. Demandons au Seigneur de les bénir, de les combler eux aussi de sa grâce. Surtout demandons de les aimer tels qu'ils sont. Alors pour conclure, pour éviter de tomber dans la comparaison et le manque d'estime de soi, eh bien je vous invite à relire le début de l'épître aux Éphésiens, les versets 3 à 6 du chapitre 1. Éphésiens 1, 3 à 6, et de les apprendre par cœur. C'est le merveilleux projet de Dieu sur chacun de nous qui nous dit combien chacun est unique, appelé à la plénitude du bonheur de la Trinité. Je vous lis ce passage. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Le projet du Père de toute éternité, sur chacun de nous, eh bien c'est de nous combler de l'amour même qu'il a pour son Fils unique dans la Trinité. Dieu veut nous partager la plénitude de ce qui est vécu par son Fils. Amen.